Bonsoir. L'opposition politique congolaise suspend sa participation aux élections provinciales, municipales et locales. Elle conditionne son retour à un certain nombre de préalables, notamment la révision du calendrier électoral, le décaissement des fonds nécessaires pour organiser les élections et exige une enquête internationale et indépendante sur l'affaire Fosse Commune de Maluku. Du côté de la majorité présidentielle, le Congrès national congolais qualifie ce comportement de gravissime, d'anticonstitutionnel et d'antidémocratique, étant donné que le calendrier électoral est une prérogative exclusive de la CENI. Comment analyser ces déclarations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 22 avril 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Albert Fabrice Puela, député national de l'opposition et leader du parti pour la renaissance du Congo, Réconcile. Monsieur Puela, bonsoir.
Bonsoir, madame.
André-Alain Atundu, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani, dans la province orientale. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Justin Daliko de Mambasa dans la province orientale. J'accuse le manque de volonté politique au sein du gouvernement en place, d'où il faudrait toujours exercer une certaine pression sur lui par l'opposition ou soit par la communauté internationale pour qu'on puisse parvenir à une résolution quelconque. J'encourage ses opposants à continuer leur lutte pour une alternance civilisée. Romanique Kabangou, l'opposition n'est pas encore prête pour cette raison qu'elle cherche comment modifier le calendrier pour avoir assez de temps, pour avoir le temps de se préparer financièrement. Merci de nous suivre, partenaire RDC, sous la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plusieurs partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, notamment l'UNC, l'ECID, l'UDPS, l'ADT, la CDC refusent de participer aux élections provinciales, locales et municipales avant d'obtenir certaines assurances de la CENI. Dans une déclaration faite lundi dernier à Kinshasa, les opposants disent avoir constaté que la situation politique est dangereuse en RDC puisque caractérisée par un processus électoral hypothétique, l'installation improvisée de nouvelle province. Reportage Jeff Ngoy.
L'opposition décide de rejeter l'activité en rapport avec le dépôt des candidatures aux élections provinciales telles qu'annoncées par la CENI. Le modérateur de cette opposition, Martin Fayoulou, fait savoir qu'il faut d'abord attendre l'issue de la rencontre sollicitée avec la CENI pour se déterminer.
Dans le souci de contribuer efficacement à un processus électoral inclusif et apaisé, nous avons saisi la CENI le vendredi 16 avril courant pour une rencontre ultime. Celle-ci nous permettra d'obtenir des assurances sur le prérequis avant de nous engager dans le processus du dépôt des candidatures.
Le président de l'ATD, José Makila, parle de ce prérequis.
La CENI a demandé 46 millions de dollars. Jusqu'à présent, on leur avait remis 5 millions et que la CENI a refusé. Donc la CENI n'a pas l'argent pour organiser les élections au jour d'aujourd'hui. Des deux, les élections locales, provinciales, municipales et consorts. On n'a pas encore délimité les villes parce qu'on aura des mairies. Je vous donne l'exemple de Guéménan chez moi. C'est une mairie. Mais il n'y a pas une délimitation. Donc la loi n'est pas encore sortie. Qu'est-ce que l'opposition veut actuellement? C'est les élections provinciales.
L'opposition exige également une enquête internationale et indépendante sur ce qu'elle qualifie de fosse commune de Maluku avec exhumation des corps et prise d'ADN.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. En réaction, le Congrès national congolais, parti membre de la majorité présidentielle, dit avoir suivi avec amertume et consternation cette déclaration de l'opposition. Le parti du député national Pius Moabilou l'a déclaré hier mardi dans un point de presse à Kinshasa. Il qualifie ce comportement de gravissime, d'anticonstitutionnel et d'antidémocratique. De ce fait, ce parti se décide de ne laisser personne à acteurs politiques de la majorité tout comme de l'opposition, moins encore membres de la société civile, violer la Constitution en s'en prenant à l'indépendance de la CENI. On écoute le député national Pius Mwabilou, président du CNC, au micro d'Inonso Olinga.
Le refus d'aller aux élections n'est pas en soi anticonstitutionnel. Si l'opposition ne veut pas aller aux élections, c'est leur droit. Ça ne sera pas la première fois que des partis politiques, qu'un parti politique, qu'un regroupement politique refuse de participer à une échéance électorale. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est l'instrumentalisation des gens contre les principes arrêtés dans notre loi des lois. Demander que la CENI puisse discuter avec un groupe de personnes futiles. Les dirigeants des partis politiques. C'est anticonstitutionnel. Le calendrier électoral, c'est une prérogative exclusive de la CENI. Le Congrès national congolais rappelle aux uns et aux autres que le respect de la Constitution s'impose à tous, aussi bien à la majorité, tout comme à l'opposition, ainsi qu'à la société civile.
C'était la Pius Mwabilou, président du CNC, parti de la majorité, au micro d'Innocent Linga. Albert Fabrice Pouila, vous êtes député national de l'opposition et leader du parti pour la renaissance du Congo, réconcile. L'opposition a décidé de suspendre sa participation aux élections provinciales, locales et municipales. Vous conditionnez votre retour à un certain nombre de préalables. On l'a cité tout à l'heure, il y a entre autres la révision du calendrier électoral et des des fonds nécessaires pour organiser les élections, mais vous exigez aussi une enquête internationale et indépendante sur l'affaire de force commune de Maluku. Pourquoi ?
Merci beaucoup, madame. Je tiens à saluer mon co-débatteur ainsi que nos compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République et à travers le monde. Madame, le processus électoral, c'est un processus participatif, ce qui veut dire que tous les partenaires sociaux, tous les acteurs politiques doivent se mettre d'accord. C'est comme lorsque vous avez l'organisation d'une grande compétition internationale de quelque nature, que ce soit le football, le volleyball et qu'on sort. On ne peut pas décider, par exemple, que la compétition, celle qui se déroulera au niveau du Qatar, par exemple, que dès que vous vous réveillez à 6 heures du matin, vous commencez à jouer. C'est pourquoi on appelle les différentes fédérations. C'est au fait cette même politique qui dirige les différentes commissions électorales nationales indépendantes. Nous n'avons pas inventé la roue. Que vous alliez dans d'autres pays, c'est ce qui se passe. Et même chez nous, pourquoi en son temps, avant de sortir le calendrier électoral, là, les Passengoy Mulunda avait, au niveau du palais du peuple, inviter tous les différents acteurs pour discuter avec eux de différentes articulations de ce calendrier électoral. L'abbé Malumalu aussi l'avait fait en 2006. C'est la même chose parce qu'à ce moment-là, on comprend que ce sont des acteurs majorité ou comme opposition. La CENI n'est pas un groupe de représentation d'intérêt d'un camp par rapport à un autre.
Mais il y a un cadre où les partis politiques se retrouvent avec la CENI pour discuter des questions sur le processus électoral.
Mais bien sûr, c'est pourquoi nous avions écrit à la CENI lorsqu'on a sorti le calendrier électoral. Nous nous sommes réunis en nous rendant compte que ce calendrier n'était pas réaliste. Ce calendrier avait beaucoup d'écueils que nous avons relevés dans une correspondance que nous lui avons adressée. Mais même dans les normes les plus élémentaires de la bienséance, des normes de la citoyenneté élémentaire, on pouvait ne fût-ce qu'acquiser réception et nous rencontrer dans ce que nous avons soulevé. Madame, aucune suite. C'est comme les compatriotes qui a dit que les pouvoirs comme la CENI n'écoutent que la voix de la pression. Ce qui n'est pas normal, c'est un processus citoyen. Pendant la transition, on a appelé la CEI comme une institution d'appui à la démocratie.
Alors
comme...
de quoi vous voulez parler avec la CENI lors de cette rencontre que vous demandez, vous, de l'opposition?
La rencontre que nous voulons demander avec l'opposition, c'est demander à la CENI de respecter son propre calendrier. D'abord, madame, j'ai devant moi, je pourrais même soumettre à mon co-débatteur, les calendriers tels que publiés par la CENI au début du mois de la première partie du mois de février. Au point 9, il est clairement dit que du 24 mars au 12 avril 2015, il y aura l'audit externe du fichier électoral. Madame, le fichier, la révision, l'audit de ce fichier électoral, pour nous est important. pour éviter de retomber dans les travers des autres processus organisés. Souvenez-vous, en 2011, les sittings, les manifestations, jeudi fichier électoral, et beaucoup même des membres de l'IDPS, beaucoup
mais
de combattants.
Mais selon la CENI, l'audit du fichier électoral est en cours.
Non, c'est pas en cours. L'audit externe. Quelle est la maison qui a été qui a bénéficié de ces marchés pour venir auditer? Madame, combien de Congolais sont décédés? L'OIF, non madame, parce qu'on doit nous appeler pour assister, pour être témoin, parce que ce n'est pas encore le cas. Et puis, si vous dites que c'est en cours, si la CENI déjà n'a pas respecté son calendrier, je vous dis bien, nous sommes les 15e aujourd'hui, n'est-ce pas le 22 avril, mais cet audit devait avoir lieu du 24 mars au 12. J'ai le calendrier devant moi, vous l'avez effectivement, vous voyez que la CENI elle-même déjà a violé son propre calendrier. Et puis madame, combien de nos compatriotes sont décédés? Combien se sont déplacés? Et encore que nous ne connaissons pas l'identité. Si hier déjà, avec les enrôlés, nous n'avons pas eu de vraies, de bonnes élections, parce que plusieurs, je vous donne l'illustration de la ville de Kinshasa, avec plus de 3 400 000 enrôlés. Mais pour le vote proprement dit, il n'y avait qu'un 1 800 000 qui avaient voté. Plusieurs se retrouvaient devant les bureaux, ils ne trouvaient pas leur nom. Alors, il y avait ce cafouillage, et des gens veulent qu'on continue avec ces fichiers électoraux biaisés. Madame, il n'y a pas un document aussi trafiqué, aussi falsifié que la carte d'électeur. Alors, on veut qu'avec ce fichier électoral qui renferme beaucoup de scories, beaucoup de problèmes, qu'on aille encore des élections, aux élections. Nous avons été trompés en 2006, en 2011. Le peuple congolais ne mérite plus d'aller dans un processus électoral dont on connaît déjà l'issue.
Et au cas où vous n'avez pas une suite favorable par rapport à cette rencontre que vous demandez avec la CENI,
nous exigeons que nous nous rencontrions, et puisque nous sommes dans un processus politique, dans un processus électoral, nous trouverons des solutions, parce que ce que nous soulevons, ce que nous nous déplorons, c'est quoi? C'est que la CENI se comporte comme un défenseur d'intérêt de la majorité. Figurez-vous, je ne peux pas faire un procès d'intention. Lorsque, lors d'un discours, on annonce, M. Kabila annonce qu'il faut qu'on puisse passer aux élections des députés provinciaux au second tour. N'est-ce pas que vous avez suivi le président de la CENI relayer ces discours-là? Nous, c'est ce que nous refusons. La CENI doit être au milieu. Lorsqu'on a proposé de répartir les sièges sur base des données démographiques, la CENI était en train d'observer. Et lorsqu'on a rejeté, la CENI est restée telle qu'elle. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a des millions, plusieurs millions de nos compatriotes qui ont atteint la majorité aujourd'hui. Il faut que cela aussi soit enrôlé pour qu'ils puissent voter. C'est un droit constitutionnel, madame.
Alors, rapidement, comment vous réagissez au propos de l'honorable du député Pius Mwabilou qui juge votre comportement de gravissime, d'anticonstitutionnel et d'antidémocratique?
Madame, nous aurions voulu que lui-même, l'honorable Pius Mwabilou, nous avons beaucoup de respect pour vous, pour lui. Il ne suffit pas de faire la déclaration, mais il faut pouvoir défendre son point de vue dans le cadre de ce débat. Nous aurions voulu le rencontrer pour lui dire que ce n'est pas anticonstitutionnel. D'ailleurs, lui-même l'a dit que ce n'est pas anticonstitutionnel. Il est démocratique de constater que lorsque les règles du jeu sont biaisées, que la personne, la personnalité ou le groupe qui estime que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas d'accord avec cela, nous leur interdisons de penser que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes prêts, nous voulons aller aux élections, mais nous voulons plus qu'on puisse voler notre victoire comme cela a été
merci
le cas en 2011.
Merci honorable Pouela, André Alatundu, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Quelle est votre lecture de la déclaration de l'opposition qui pose des préalables avant d'aller ou de participer aux élections provinciales, municipales et locales?
Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à Maître Pouela, et bonsoir à vous-même, évidemment. La partie de l'opposition qui pose ce genre de préalable doit faire un effort pour se mettre à la hauteur de la confiance que le peuple congolais accorde à toute la classe politique congolaise, sans distinction, sur base de la présomption qu'en toutes circonstances, la classe politique privilégiera l'intérêt général et commun au détriment des intérêts partisans et particuliers. Pourquoi, par exemple, établir une corrélation entre l'exigence d'une enquête internationale sur la tombe commune de Maluku et la participation au processus électoral? Et si d'aventure le pouvoir accédait à cette demande et conditionne la reprise du processus à la fin de l'enquête, qui peut prendre un an, deux ans, puisqu'il s'agit d'exhumer, d'utiliser les ADN et tout ça pour 400 personnes. Dois-je comprendre qu'en réalité, ils recherchent le glissement dont ils accusent ou prétendent accuser la majorité et le président Kabila? Il me rappelle le cas d'un homme qui ne veut pas se battre et qui appelle à témoin l'opinion en disant « Retenez-moi, sinon je fais un malheur ». Nous devons respecter la Constitution dans l'attribution des prérogatives et devoirs reconnus à chacun et à chaque institution.
Mais est-ce que l'opposition n'a pas raison de demander à la CENI qu'elle puisse, qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral?
Chacun a le droit, d'après la Constitution, de faire ses revendications. Mais il ne faut pas confondre revendication et opposition. Ça, c'est de un. Et de plus, lorsque on accepte d'adhérer à un processus démocratique, à un système démocratique, il faut savoir se plier à la discipline républicaine. C'est-à-dire, un, respecter les prérogatives de celui qui a la charge et la compétence d'organiser les élections, par exemple, ou alors se plier à la règle du plus grand nombre. La démocratie est aussi simple que cela. Alors, en conclusion, enfin, en conclusion, c'est trop tôt, mais cette prise de position, ainsi que la sainte colère qui l'accompagne, est en réalité destinée à abuser la bonne foi du peuple et de leurs partisans particulièrement. Et, en tout état de cause, pourquoi ne pas saisir la Cour constitutionnelle? C'est la question que je me pose.
Alors, une autre raison, c'est les décaissements des fonds nécessaires pour organiser les élections. La CENI avait demandé 45 millions de dollars, mais jusqu'à présent, le gouvernement a remis à cette institution 5 millions qu'elle a refusé.
Qui doit-on croire? L'honorable Makila ou le président de la CENI, l'abbé Malumalu? L'abbé Malumalu est au courant de la réalité des faits plus que l'honorable Makila. Lorsque l'abbé Malumalu dit « Il n'y a pas de problème, nous allons organiser les élections et toutes les élections » et que l'honorable Makila, sur base putative ou de rumeur, prétend...
Il s'est renseigné sûrement avant de faire cette déclaration.
Prétend que la CENI ne va pas organiser, ne peut pas organiser les élections. Je crois que c'est sa parole contre celle de l'honorable Makila, et en l'occurrence, la loi lui donne la prérogative de la prépondérance.
La question des délimitations des villes aussi pose problème pour les élections locales et municipales.
Il est toujours dangereux, lorsqu'on a une idée, de penser qu'on est la seule personne à l'avoir. Les questions que l'honorable Makila se pose, légitimement d'ailleurs, mais l'abbé Malumalu, le bureau de la CENI, tous les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, se sont posés. Et alors, lorsqu'en tout état
mais
de
vous
cause...
Mais vous êtes arrivé à quelle conclusion, lorsque, vous
mais la conclusion, c'est que la CENI dit qu'elle est capable d'organiser les élections. Toutes les élections. Qui dit mieux?
Oui, sans avoir délimité les villes, mais comment ça va se passer? Ça va poser un problème.
Ce sont les modalités pratiques. Je vous dis, il y a pensé certainement. Toutes les élections ne vont pas se réaliser aujourd'hui. Et pendant que nous ne sommes même pas encore à la période de la campagne, vous avez suivi le vice-premier ministre Beauchamp installer les commissions chargées, j'allais dire, à la fois de liquider les anciennes provinces et d'instituer ou de veiller à l'implantation des nouvelles. Donc le pays marche. Les interrogations ne doivent pas nous empêcher de travailler.
Et si je vous comprends bien, André Alain Toundou, cette rencontre que l'opposition demande n'est pas opportune.
Bon, c'est à eux de décider. Mais je crois que même si elle est légitime, c'est à la CENI de décider de l'opportunité. Et en l'occurrence, je crois que la CENI doit être très vigilante pour ne pas céder à de manœuvres dilatoires pour nous empêcher d'accéder aux élections.
Merci André Alain Tondo, professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris, et enseignant à l'Université de Kisangani, dans la province orientale. Professeur, quelle est votre analyse de cette situation?
Bon, merci beaucoup, madame. Je salue mes deux convoiteurs et je salue aussi les auditeurs de Radio Capi et vous-même.
Merci.
Je pense qu'on est là face à une situation qui traduit bien un climat politique malsain, de suspicion, de tension, mais aussi de méfiance réciproque entre l'opposition et la majorité. Et donc on est là dans une situation qui peut dégénérer. On aurait pu imaginer que c'est une situation normale dans un jeu démocratique, où on est dans une espèce de ce qu'on appelle, ce qu'on peut expliquer dans la théorie des jeux. Vous avez plusieurs acteurs. Et chacun essaie de pousser ses pions et on essaie d'anticiper aussi les jeux de l'adversaire pour pouvoir le contrer et pouvoir obtenir gain de cause. On pourrait peut-être dire ça. Mais au fond, on peut se demander quelle est véritablement la priorité ou les priorités de notre nation, de notre pays, si je vois les positions des uns et des autres. Est-ce que nous voulons véritablement construire une nation prospère, forte, et qui soit tournée vers l'avenir, et qui puisse vivre dans la paix, qui se reconstruise, qui construise une démocratie? Alors quand on fait ce type de déchirement, on peut se demander la question véritablement sur ces sujets-là. Parce que quand je vois, par exemple, les revendications de l'opposition aujourd'hui de dire, voilà, il faut qu'il y ait une révision du fichier électoral, du calendrier électoral, je pense qu'il y a une part du vrai dans cette revendication. Vous savez, madame, qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas pu se faire inscrire, des adultes, sur la liste électorale en 2011. Et donc, ces gens-là devraient pouvoir voter. C'est de leur droit en tant que citoyen, c'est garanti constitutionnellement. Ensuite, il y a également tout un tas de jeunes, et là je parle des milliers, voire des millions de jeunes qui doivent avoir aujourd'hui entre 18 et 22 ans ou 23, qui n'étaient pas majeurs en 2011, qui devraient pouvoir voter. Et donc on ne peut pas sacrifier ces gens-là, voyez-vous, et c'est pour ça que, à mon avis, revisiter les fichiers électoraux est une nécessité. Pour moi, c'est plus qu'une nécessité même qu'il faut faire ça. Alors, donc ça pourrait permettre de faire une élection qui apaise tout le monde. Parce qu'il me semble que ce qui devrait être nos priorités en ce moment, ça doit être de trouver un consensus politique. Un consensus politique qui permette d'avoir des élections apaisées dans un climat politique serein, qui permette ainsi d'avoir des élus qui soient légitimes, qui soient acceptés par une bonne partie de notre population. Alors, si on n'arrive pas à trouver un consensus politique qui permet d'avoir des élections apaisées, on va aller vers des contestations des résultats. Les élus, au lieu d'en sortir, si vous voulez, plus légitimes, ils en sortiraient plus affaiblis. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays qui veut se construire, qui veut aller vers l'avant pour devenir une démocratie. Alors, il me semble que, au lieu de rechercher ça, on est plutôt en train de se chercher la petite bête les uns aux autres. Alors, l'autre point qui me semble important en ce moment, ça devrait être, une fois que ce consensus est en cours de élaboration, si vous voulez, il faudrait mobiliser les ressources, parce que là, on est à court des ressources. On l'a entendu à plusieurs reprises, la CENI elle-même avait reconnu qu'il y avait une contrainte majeure par rapport aux ressources. Et les partenaires de la RDC ont dit la même chose. Et donc, ils ont promis d'amener un peu d'argent, parce qu'il faut 1,3 milliard de dollars pour financer tous les processus électoraux. On n'a pas cet argent, ce n'est pas avec quelques millions que le gouvernement a mis en place qu'on pourrait financer les processus. Et pour que les partenaires puissent financer, il faut qu'il y ait un consensus au niveau national, il faut qu'il y ait une confiance qui soit entre les uns et les autres pour permettre d'avoir cet argent-là pour faire les élections. Alors, si on veut faire des élections bâclées qui vont nous ramener dans une situation de crise politique, je pense que ça ne vaut pas la peine de le faire.
Alors,
donc, tout ça devrait viser un but, c'est de rassurer chaque camp. que tout le monde soit rassuré, qu'il y ait une confiance mutuelle à travers ce processus-là, on pourrait espérer avoir des élections qui appellent tout le monde.
Est-ce que ça ne risque pas, professeur, ça ne risque pas de rallonger encore le calendrier électoral, puisque l'opposition tient assez qu'au mois de en 2016 qu'on organise les élections législatives et présidentielles. Si on doit tenir compte des revendications de l'opposition, est-ce qu'on ne risque pas d'aller au-delà de 2016?
Alors, madame, il me semble que notre priorité devrait être plutôt d'essayer de trouver une solution qui permette d'avoir des institutions fiables en dans lesquelles tout le monde se reconnaît, des élus qui font confiance, qui inspirent confiance à tous les Congolais. Et pour moi, la question des délais n'est pas une question, sine qua non. Parce que on peut faire un changement de priorité par rapport aux élections. On peut dire voilà, les élections qui posent le plus de problèmes en termes de contestation et qui sont les plus essentielles, c'est lesquelles. Alors, si on dit que c'est l'élection présidentielle et les élections législatives, alors on les met comme priorité. Ensuite, les autres élections qui font moins de problèmes sur le plan politique et les restes, mais qui posent d'énormes défis techniques pour les organiser, notamment les élections locales, municipales et autres, on peut le mettre un peu plus tard. Le temps de nous préparer logistiquement et financièrement, techniquement, pour pouvoir les organiser en toute quiétude. Et donc, celles-là, à mon avis, peuvent attendre même au-delà de 2016. Depuis 2006, on devait avoir ces élections-là. On ne les a pas eues. Les gens ne sont pas morts.
Merci.
Et donc, les pays continuent à être gérés.
Merci,
donc, on peut encore attendre par rapport à ces élections-là.
Il me semble que ça ne peut pas
être un problème majeur à ce sujet.
Merci, professeur. On vous donne la parole tout à l'heure à Albert Fabouspul. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalimio Katanga.
Ernest Lukumwenakalala, je vous appelle à partir de Kalimio. Je trouve les déclarations de l'opposition inopportunes. Elle cherche un bouc émissaire. Il est temps de fournir beaucoup d'efforts pour remplir les conditions nécessaires avant la date limite des dépôts de candidatures, parce que le président de la CENI a déjà dit que le calendrier ne sera plus réaménagé. Autre chose, est-ce que la fosse commune est dans les compétences de la CENI? Voilà pourquoi l'opposition répond du coq à l'âne.
Réaction, Albert Fabouspul.
Merci beaucoup. Mon peuple périt faute de connaissances. Je pense que notre compatriote qui est à Kalemi devrait s'apaiser en comprenant que la démarche de l'opposition doit lui être profitable, lui est profitable aussi, pour que demain nous n'ayons pas de circonscriptions comme Malemankulu, où nous avons désenrôlé plus de 298 000 qui tous votent pour un seul candidat alors qu'il y en a 11. Nous savons comment les élections présidentielles sont organisées. Nous devons éviter de tels retards parce qu'au départ, on n'a pas vu les fichiers électoraux à ce qui concerne cette circonscription. Il y a eu beaucoup d'retards. Et puis, lorsque nous avons des élections, je pense que même les premiers qui devraient comprendre qu'il faut que le climat soit au départ apaisé, ce sont les animateurs de la Commission nationale indépendante, encore que nous pensons que nous devons avoir les certificats médicaux de celui qui dirige, parce qu'on ne peut pas comprendre le grand juge qui est absent pendant 3 mois, semble malade, revient et redisparaît parce qu'il est encore reparti. Alors, nous n'allons pas parler d'individus, nous le souhaitons.
Nous parlons de la CENI, oui, voilà, on l'a suivi lors de son dernier point de presse.
Oui.
Le président de la CENI a dit que le calendrier ne sera plus réaménagé.
Madame, c'est un individu qui a parlé.
Mais c'est le président de la CENI.
Nous n'en disconvenons pas. Mais madame, au regard des données en présence, combien tout le monde aujourd'hui est unanime. Je salue la pertinence de l'intervention du professeur Alphonse Maindo, comme si nous étions ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour voir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer? L'élection présidentielle, les législatives nationales et au besoin les provinciales sont indispensables. Mais on ne peut pas y aller avec un fichier électoral biaisé. On a programmé son audit jusque-là, il y a un tâtonnement. Et puis, je vous ai parlé de la manière par laquelle la carte d'électeur est trafiquée à longueur de journée. Nous irons avec une telle carte d'électeur? Non, madame. Et si nous revendiquons cela, c'est pour que demain, nous n'ayons plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on aura volé la victoire du peuple. C'est pourquoi nous exigeons pour nous. On peut outrepasser les élections locales, municipales et
renouveler les fichiers électoraux, ça peut nous prendre 2 mois, 3 mois, et organiser.
Vous n'avez pas peur du glissement?
Pour nous, parce que nous estimons que les élections, pour nous, il n'y aura pas un jour de plus au-delà du 20 décembre 2016. Nous devons, c'est pourquoi nous estimons, puisque les Congolais ont le droit, tous, toutes choses restant égales par ailleurs, de participer au processus électoral. Vous n'allez pas dire à plusieurs millions de nos compatriotes de ne pas voter parce qu'ils ont commis le crime de ne pas avoir été majeur en date de 2011, encore qu'on n'est plus en 2011 aujourd'hui. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, parce que c'est un processus participatif tel que nous l'avons dit au départ, il importe que tous les Congolais en âge de voter puissent participer, qu'on puisse auditer le fichier électoral, qu'on puisse être d'accord pour les élections crédibles, que les kits électoraux arriveront effectivement. Mais de quoi nous parlons? Lorsque nous avons suivi notre compagnon, nous posons quel est le lien que nous faisons. Mais puisque voilà, nous devons être apaisés.
Le lien que vous faites entre la fosse commune et les élections, quel rapport?
Madame, nous avons des Congolais qui ont les mêmes droits que nous qui sommes vivants. Nous, encore que c'est la parole du vice-premier ministre contre la nôtre, c'est tous ceux qui ont eu à parler. Qu'est-ce que nous dit qu'il n'y avait pas 2421 corps et seulement 421 corps? C'est leur parole qu'on leur... Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont rien à cacher. Il faut que nous ayons la vérité, parce que ce sont des Congolais. Qui va parler pour eux? Parce que si on l'a fait hier, demain on le fera pour d'autres. Et aujourd'hui on commence à corriger. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis des erreurs. C'est pourquoi nous avons même déposé...
Vous allez attendre la fin de l'enquête?
Non madame, on peut commencer l'enquête. On peut commencer une enquête internationale, une enquête crédible. Nous nous sentons, à ce moment, les Congolais seront apaisés.
Merci.
Parce qu'ils sont défendus par les leurs. Et nous pouvons continuer le processus électoral en privilégiant les élections qui sont indispensables.
C'est pour vous, important. Les élections indispensables, ce sont les provinciales, les
législatives? Non. Les présidentielles d'abord, parce qu'il ne faut pas un jour, en tout cas, une heure de plus à M. Kabila, les législatives nationales et les provinciales.
Merci à Frère Albert Fabrice Pella. Andréa Tounou va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Ilebo, dans la province du Kassai-Occidental.
Moukoua Pablo, je vous appelle depuis Ilebo au Kassai-Occidental. La CENI elle-même avait demandé un budget là à l'État pour organiser les élections. Mais jusque-là, le montant qui a été présenté pour la première fois a été fixé à 5 millions. Et la CENI n'en était pas pour. Et comment se fait-il la même CENI, qui n'était d'abord pas pour le montant qui lui a été fixé, pouvait demander aujourd'hui aux hommes politiques d'être en ordre pour se préparer pour les élections provinciales? Donc c'est quelque chose qu'on trouve pas normal, c'est comme si vous présentez à quelqu'un une chose et son contraire.
Réaction à la Tondou, cet auditeur revient sur l'affaire des décaissements de fonds.
Le décaissement des fonds est une modalité pratique qui ne peut pas arrêter le principe des élections et le principe du calendrier électoral. Je le dis, si quelqu'un est prêt, il ne peut pas dire, bon, tant qu'il n'y a pas des décaissements, moi je ne me présente pas.
Mais est-ce que là, s'il y a l'argent aujourd'hui pour organiser les élections?
Est-ce que moi, j'ai des moyens pour contester la parole du président du bureau de la CENI quant à ce?
Vous l'avez entendu dire, non. Qu'il y a des moyens pour organiser les élections?
Il a affirmé dernièrement, toutes les élections seront organisées les unes après les autres et complètement. Mais je pense que il n'y a pas de petites élections, comme il n'y a pas de petits droits. Les droits que vous considérez comme petits peuvent avoir des conséquences et des dérapages importants. Les élections essentielles, par rapport à quoi? Est-ce par rapport à notre volonté de décentralisation et de l'implantation de la pratique démocratique dans le peuple, ou par rapport aux intérêts jugés majeurs par certains? Nous avons notre État, nous disons que c'est un État de droit. C'est-à-dire que chaque comportement des institutions, chaque comportement des individus ont été prévus par la Constitution. Et la Constitution nous dit que l'organisation des élections relève de la CENI. C'est la CENI qui doit nous dire voilà, voilà. Il nous a proposé le calendrier. D'abord, partiel, en disant voilà, je veux ça. Tous les généraux de l'opposition, de la communauté internationale, eh bien, c'est une façon de glisser, c'est une façon de tricher. Donnez-nous tout le calendrier.
Par eh bien, rapport CENI, à ces jeunes qui ont atteint 18 ans, pourquoi ne pas leur accorder cette chance de pouvoir voter?
Mais accorder ce que vous appelez accorder une chance reviendrait à dire à l'oreille de l'opposition favoriser les glissements. Parce que le comptage a un coût financier, matériel et chronologique. Lorsque vous pensez que le 20 décembre, c'est une date fatidique, au-delà de laquelle la République n'existe plus. Alors, vous biaisez tout le comportement démocratique auparavant. Moi, je pense que nous devons apprendre à respecter la Constitution. Intégralement. Respecter la Constitution, c'est respecter les institutions dans leurs prérogatives. Et aussi, assumer les paradoxes conjoncturels éventuels. Comme on le fait sous d'autres cieux. Et rien n'est parfait sur la terre des hommes. Il faut aller vers le perfectionnement plutôt que vers la perfection.
Merci Yandra Latundu, professeur Maïn. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Monsieur Béli Kimwanga depuis Kinshasa. La position de l'opposition n'est pas mauvaise vis-à-vis de la réalité des élections provinciales. Ils ont raison d'autre part de réclamer l'enrôlement des personnes ayant atteint l'âge de voter. Du point de vue temps, il est impossible que la CENI puisse modifier les calendriers. Les 5 000 ou les 5 millions de personnes rejetées par cette institution ne va pas bloquer l'avancement des sorties de crise du pays. Il y a ceux qui ont été enrôlés et qui sont morts. Nous allons tenir compte d'eux au scrutin? Je crois bien non. Alors, acceptons pour terminer avec les politiciens pillés, au lieu de faire traîner les choses qui leur permettront davantage d'empocher. Que l'opposition continue à veiller pour éviter les glissements qu'ils ont l'habitude d'évoquer. Qu'ils soient flexibles. La population congolaise a compris et nous suivons de près la situation du pays. Il y a un adage qui dit « Les bois de chauffage est sorti de la forêt. Évitez de les retourner encore. »
Réaction, professeur Maïndo.
Oui, merci beaucoup, madame. Je remercie l'auditeur de sa question. Alors, je voudrais répondre en disant ceci. Quelle est la raison d'être de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante? C'est une institution républicaine qui a été instituée pour quoi? Ben parce qu'il fallait rassurer la minorité par rapport à la majorité. C'est le fondement de ce qu'on appelle dans la République, c'est que la démocratie étant la loi de la majorité, il ne faut pas qu'il y ait l'arbitraire contre la minorité. Et donc, dans beaucoup de démocraties, vous trouvez des institutions disons républicaines qui ont été mises en place. Vous avez, par exemple, le médiateur de la République en France ou l'ombudsman dans les pays scandinaves. Et c'est dans ce même sens que l'on a des institutions comme... On a un principe comme ce qu'on appelle... C'est que Kelsen avait institué le contrôle de la constitutionnalité des lois. C'est pour éviter que la nation ne puisse avoir des problèmes à cause de l'arbitraire de la majorité. Et donc la CENI, cette institution-là, elle doit donc veiller pour ça. Et si elle est une institution républicaine, donc elle doit écouter les différentes voix. Dans d'autres pays, on n'a pas d'institution qui s'occupe indépendante, qui s'occupe des élections. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections normalement. Et comme il y a confiance dans les institutions, personne ne conteste ces élections-là. Donc, et la question du temps. Le temps, c'est nous qui gérons le temps. Si nous voulons gérer le temps et que nous nous donnons les moyens pour faire ça, nous allons arriver à organiser les élections. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Il s'agit pour nous de nous asseoir entre Congolais pour déterminer quelles sont les priorités pour notre pays, pour notre nation, pour que notre pays fragile qui sort de conflits péniblement puisse consolider la paix retrouvée, puisse consolider les acquis de la croissance qu'on est en train de faire. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas mieux que d'avoir un climat apaisé. Et là, on est en train de voir les tiraillements entre l'opposition et la majorité. C'est à peu près ce que c'est comme l'histoire de deux chiens qui sont attachés qui sont attachés l'un à l'autre et on leur met deux plats à manger de chaque côté. un plat du côté d'un chien et l'autre plat du côté de l'autre chien. Et ils se tirent, chacun veut aller manger de son côté. Et finalement, personne n'arrive à aller manger son plat parce qu'ils se tirent très fort. Donc la solution serait plus simple, c'est de dire, voilà, on s'entend. On va d'abord chez l'autre, il mange ou on mange avec lui, puis on va de l'autre côté. C'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire s'asseoir pour regarder. Parce qu'il me semble que dans la République, il y a suffisamment de la place pour tous, pour toutes les filles, pour tous les fils de ce pays. C'est question de pouvoir se mettre d'accord et de fixer des priorités et de travailler ensemble vers cela. Il n'y aura jamais d'entente parfaite. On n'est pas en train de chercher la perfection. Nous sommes en train de vouloir aller vers les mieux par rapport à ce qu'on est là aujourd'hui. Et merci. Ça, c'est possible. C'est possible.
Merci pour
nous avons là, si vous voulez, un jeu de dupes qui se mène ici. Il me semble que la majorité est en train de montrer un peu à l'opposition. Vous avez voulu des élections, vous refusez les glissements, vous exigez le respect de la Constitution. Eh bien, tu en veux, en voilà. Et l'opposition elle-même, après coup, se ressaisit, dit, mais voilà, là aussi, il y a un autre élément que je dois éviter, et on repart encore dans des contestations.
Merci,
on
ne va
pas
professeur.
S'en sortir avec ces yeux-là.
Merci, ouais, professeur. Vous. Il reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. On va être bref dans les réponses. Albert Fabrice Puella, si aujourd'hui, vous apprenez que le gouvernement a décaissé les fonds nécessaires pour l'organisation de ces élections, est-ce que l'opposition va se précipiter en ce moment-là au bureau au BRTC, je crois, le bureau de traitement, des réceptions, traitement de candidatures pour les élections provinciales, puisque ça a déjà commencé et ça va se clôturer. D'ici là, vous allez vous précipiter maintenant pour aller déposer vos candidatures.
Il ne suffit pas de décaisser l'argent. Il faut encore auditer le fichier électoral et même le compléter. Parce que c'est important pour nous qu'on puisse enlever les scories qu'il y a dans ces fichiers électoraux. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ont voyagé, il y a des populations qui se sont déplacées. Il ne faut pas que les cartes d'électeurs qui sont trafiquées aujourd'hui, qui se retrouvent même auprès des personnes qui n'en ont pas la qualité de militaires, par exemple, qui se retrouvent dans les pays limitrophes, que ces gens viennent voter, qu'on utilise ces cartes. Je vous donne une illustration, par exemple. Dans une ville comme Boma, où nous avons des autorités qui donnent des pailles aux gens en contrepartie du numéro de la carte d'électeur. Et ce sont des faits vrais que je vous dis. Des choses comme ça. Ce sont des germes de tricherie. Ça se passe à Boma. Et lorsque vous avez des choses comme ça, des pratiques comme celle-là, ce sont des germes de tricherie et nous ne pouvons pas... Donc, l'argent, l'audit du fichier électoral et aussi une entente pour que les élections locales et municipales, contrairement à ce qu'a dit mon co-débatteur, nous estimons qu'aujourd'hui ça ne répond pas à un grand impératif constitutionnel.
Merci.
Il y a moyen d'y attendre.
Merci Albert Fabrice-Pella, ça sera aussi là votre conclusion. André Alain Tondou. Si l'opposition tient à cette revendication, qu'on réponde à cette revendication, on est bloqué là, le processus est bloqué.
Mais la Constitution a établi des règles que tout le monde doit respecter. Lorsque quelqu'un est dans ses prérogatives, eh bien vous pouvez contester, mais il exerce d'après la Constitution. Si vous pensez que ses prérogatives sont exercées au-delà des dispositions constitutionnelles, vous saisissez la Cour constitutionnelle. On ne peut éviter à la nation, excusez-moi professeur, à un État généralement quelconque, d'avoir des problèmes. La vie en commun, c'est des problèmes. Ce qu'il faut, il faut veiller à avoir les moyens nécessaires pour trouver une solution lorsque les problèmes se posent.
Merci. Merci André Alain Tondou, professeur. En un mot, votre conclusion.
Alors, ma conclusion, c'est tout simplement d'en appeler aux uns aux autres, à l'opposition, à la majorité, à pouvoir s'entendre, à trouver un consensus pour que notre peuple vive finalement dans une paix retrouvée, consolidée, pour éviter un désenchantement à nouveau. Voyez-vous, si vous voulez ici en appeler à Hirschman, parce qu'on pourrait avoir une situation où les gens font ce qu'on appelle exit voice and law, ici, où il y a des gens qui vont hausser les tons, où les gens qui vont abandonner la politique et tout ça, c'est détourner de la politique. Il faut éviter ça à notre peuple. Il faut motiver notre peuple à continuer à s'intéresser aux affaires publiques. Et pour ça, il faut cesser ces jeux-là qu'on fait là, ces jeux stériles.
Merci, professeur, sur la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Berry Loutchaka, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Mimi Kindo, qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.